midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue. Bon dimanche, on vote en France. Et je reçois ce matin le couteau suisse de la littérature algérienne, Chaouki Amari. Vous êtes écrivain, journaliste, chroniqueur, caricaturiste, illustrateur, scénariste, comédien et géologue de formation Comédir.
Dans le désordre.
Exactement. Je suis sûr que si on cherche, on peut en rajouter. Et vous publiez en France, Balak, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors ce matin, la journée, je ne sais pas si elle a bien commencé pour moi, mais quand j'ai garé mon vélo pour venir à la radio dans le plot numéro 7, j'ai pensé à vous.
Le 7, c'est quoi? C'est un message pour l'élection? Non, ça n'a rien à voir.
Alors, non. Dans votre livre, ça ne parle pas d'élection, le 7.
Non.
C'est la symbolique des chiffres.
Le 7. Le 7, d'abord, c'est un chiffre premier. Il est où le 7 dans le livre?
Chez les Égyptiens, il est le 7.
Le 7, il est partout, en fait. Hein. Les Hébreux, les Musulmans, les... Et bizarrement, les Babyloniens considèrent le 7 comme un chiffre porte-malheur.
Après, ça dépend des cultures, finalement.
Oui, mais ils ont fait après l'inverse. C'est-à-dire, les Égyptiens, pour eux, c'est porte-bonheur. Et donc, de fait, toute la succession... Pourquoi on parle de chiffres? Parce que
dans votre livre, il y a toute cette histoire des nombres premiers.
C'est ça.
Et je posais une question, pourquoi le chiffre 2 est-il le seul nombre premier pair?
Oui, et pourquoi le 5 est-il le seul nombre premier qui finit par 5? C'est le seul.
Vous avez 3 heures.
Je ramasse les copies dans 3 heures. Non, c'est compliqué les nombres premiers. Les mathématiciens se cassent les dents dessus depuis, 3000 ans. On a retrouvé des... En Mésopotamie, des textes de mathématiciens qui essaient de résoudre ce mystère des noms premiers. Je rappelle aux auditeurs que les noms premiers ne sont toujours pas compris dans une espèce de série. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire un nom premier à partir d'un nom premier. Et donc, personne ne sait pourquoi cette suite de noms premiers est ainsi faite. C'est-à-dire 7, 11, 13, etc. Beaucoup de gens disent, et c'est effectivement purement aléatoire. Et donc là, on rentre dans le domaine du hasard. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai utilisé ça en chapitre pour... les chapitres, c'est des noms premiers. Pour illustrer le hasard, qui est en fait le roman, qui n'est pas une thèse sur le hasard, mais que j'utilise en fait comme espèce de concept sous-jacent. Mm-hmm. J'ai bien répondu.
Pas mal. Balak, c'est le...
Balak.
Titre de votre livre, c'est le prénom, enfin le surnom d'ailleurs de votre héros. Balak, quand vous le traduisez, vous? Dire plusieurs choses. Ouais.
En fait, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que d'abord il est lié directement au hasard, et c'est un terme qu'on utilise souvent en Algérie. Il veut dire en même temps attention, et en même temps peut-être. Donc il y a effectivement une relation entre le attention et le peut-être, puisque dans l'aléatoire il y a du danger. Ce qui explique pourquoi les Français disent hasard et les Anglais disent hazard avec un Z qui ne veut pas dire le hasard mais le danger. Dans l'aléatoire, il y a du danger.
Et les Espagnols disent comment?
Les Espagnols disent hasard, A-Z-A-R, qui veut dire chance. Et les Portugais disent hasard, A-Z-A-R, de la même façon, mais ça veut dire malchance.
Et les Romains, alors, ils disaient quoi?
Les Romains, c'était... Il y a deux mots, c'est... Comment dire? Aléa, jacta est. Aléa, c'est le sort, plutôt. Ce qu'on dit, d'ailleurs, ça, je crois qu'on l'utilise aussi. Les aléas, ça veut dire ça aussi. Les aléas, évidemment, désignent aléatoire.
Votre héros, donc, s'appelle Balak, se surnomme Balak. Mais d'où vient, finalement, sa fascination du hasard?
Comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire, tout le monde est un peu fasciné par le hasard. Il n'y a qu'à voir les queues qu'il y a devant les jeux, les casinos, le loto, je ne sais pas quoi. Les gens sont fascinés. Ils savent que, bon, il suffit d'un coup de pouce du dessin pour changer de vie, hein. Donc lui, on n'a pas une vie... Je rappelle que dans le roman, il a un métier, il est rédacteur de mode d'emploi.
Oui.
Moi, d'abord, c'est ça qui m'a fasciné. C'est-à-dire que ces modes d'emploi d'un aspirateur ou d'un médicament, il y a quelqu'un qui les écrit. Et donc lui, c'est son...
C'est son job.
Il écrit les modes d'emploi.
Et pourquoi est-ce qu'il est bon, d'ailleurs, pour rédiger des modes d'emploi? Parce que finalement, c'est quand même compliqué de rédiger des modes d'emploi.
C'est compliqué, il faut être pédagogique, rationnel... Et c'est peut-être là où, effectivement, il rencontre le hasard. Parce que le hasard, c'est pas forcément de l'irrationnel. Enfin, à première vue, c'est irrationnel. Mais c'est peut-être une loi, au contraire, très rationnelle. Que Balak, qui, je rappelle j'explique aux auditeurs que Bella, qui est un, donc c'est un rédacteur de mode d'emploi, il rentre dans une secte clandestine à Alger qui s'appelle les Zahir, donc c'est des adorateurs du hasard, qui pensent que effectivement le seul et unique dieu de l'univers, c'est le hasard. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais bon, ils ne le formulent pas de la même façon, mais on peut demander à n'importe qui, il va dire bon, finalement, le maître destiné, c'est le hasard. Donc après...
Oui, alors à la tête de
ouais, à la tête du hasard.
Le grand Zahir.
Le grand Zahir.
Ouais.
C'est lui un peu le chef. Et que dire de lui ? Il ressemblait un peu à Laurence Fishburne dans Matrix. Enfin, c'est un petit clin d'œil. Et donc, il est à la tête de cette secte qui est clandestine, qui est pourchassée par les autorités parce qu'elle est hérétique. Parce que,
les autorités algériennes, hein, parce qu'il faut dire que dans votre
c'est
roman,
ça, Algérie,
les autorités algériennes ont on va dire, installé un ministère hein, qui des sectes.
Une direction des sectes, qui existe vraiment, hein, d'ailleurs. Hein. Elle existe, ça, c'est pas de la fiction. La secte dont je parle, je l'ai inventée, mais la direction des sectes existe vraiment. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de sectes, de courants religieux dans l'islam. Il y en a qui sont officialisées, admises. Il y a d'autres sectes qui sont combattues. Parce qu'il y a un peu de tout. Ça, on a l'impression de loin que c'est monolithique, mais il y a plein de courants. C'est pour ça qu'il y a une direction des sectes.
D'ailleurs, vous décrivez un Alger et une Algérie qui croule sous les sectes hein, dans votre livre.
Pas forcément Alger, mais je veux dire l'Algérie, oui, l'Algérie. Le Maghreb. Le Maghreb particulièrement parce que... À une certaine époque, là, on parle du 12e jusqu'au, je sais pas, jusqu'au 16e siècle, toutes les sectes qui étaient pourchassées, quand je dis secte, hein, c'est pas péjoratif, hein, c'est un courant religieux divergent de l'orthodoxie officielle au pouvoir. Et donc ces gens-là, en général, qui venaient du Moyen-Orient, venaient se réfugier au Maghreb. Et donc il y a plein de sectes qui ont atterri ici. Le Maghreb était chiite, d'ailleurs, à une époque, et puis ils ont embrassé, même à l'époque chrétienne, les donatistes étaient au Maghreb, particulièrement en Algérie et en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a une sphère de tolérance. Dès qu'on est pourchassé, on va là-bas. Donc aujourd'hui, il y a encore des dizaines et dizaines de courants, dont certains sont très dangereux. Comme par exemple, je les cite souvent, le Qadirion, qui en fait, on démarrait d'un verset qui dit que Qadar Allah ou Famacha, enfin, ça veut dire que Dieu décide de tout. Et donc ils sont partis dans le délire en disant que si maintenant je te tue, c'est Dieu qui a décidé. Donc pour eux, ils sont innocents de tout. Donc ces gens-là, effectivement, deviennent très dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a une direction des sectes. Je ne défends pas la direction des sectes, parce qu'il y a des sectes, effectivement, qui ne sont pas dangereuses pour chasser. Et à l'inverse, je rappelle que le wahhabisme, qui est même pas une doctrine officielle, mais une secte à l'époque où Mohamed Abdel Wahhab a été mis en prison, d'ailleurs, hein, au 15e ou 16e siècle, je ne sais plus, 17e. Aujourd'hui, c'est devenu un courant dominant parce que, bon, derrière, il y a le pétrole, l'Amérique, etc. Pourquoi je parle de ça ? Oui, en direct de l'Élysée, les élections.
Qu'est-ce qu'on disait ? Non. Alors, vous avez le choix. Soit on parle du wahhabisme, soit des élections, sauf qu'on ne peut pas parler des élections.
Donc, on va parler du livre.
Voilà, exactement, si vous voulez bien, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Finalement, pourquoi vous ne l'avez pas appelé Lazare, votre héros ?
J'ai eu cette tentation, mais Lazare, c'est trop connu.
Moi, je l'aurais appelé Lazare, quand même.
Mais il y a un personnage qui s'appelle Lazare, c'est-à-dire le chanceux. C'était un peu trop facile.
C'était trop facile.
Et vu que je cherche un peu la complication, non. Mais par contre, il y a un personnage qui est secondaire, voire tertiaire, qui s'appelle comme ça. Et lui, d'ailleurs, c'est aussi un vrai personnage, parce qu'il ne sait pas encore définir le hasard dans sa tête, c'est confus. Bon, lui... il a fait des études, il connaît un peu on va dire les forces cosmiques de l'univers en présence, et donc il ne sait pas si la réalité est une somme de réalités qui sont générées à chaque instant, et donc tout arrive en même temps. C'est le dé qui tombe sur les six faces en même temps, mais dans six univers différents. Et donc il n'y a plus de hasard. Là, si ça se passe comme ça dans la vie, ça veut dire que le hasard n'existe pas. Donc le problème est réglé.
D'accord. Mais qui a inventé le hasard et les jeux de hasard, par exemple ?
Ah, ça, bon, les historiens disent que c'est les Lydiens. Une peuplade étrange, je sais pas, qui était affiliée au Parti communiste, j'en sais rien. Mais il y en a qui disent que c'est Mésopotamie. En tout cas, c'est très vieux, le jeu. Et je pense que les êtres humains ont commencé à jouer très vite, parce que le hasard, ils le voyaient plus qu'on le voit, nous. Un volcan, une éruption... Un enfant qui tombe malade et l'autre qui n'est pas malade, un lion qui vient dévorer toute la famille, etc. Non. Ils étaient confrontés au hasard. Aujourd'hui encore, bien sûr, mais moins. Et en fait, ce que je dis un peu dans ce roman, c'est que tout le monde le sait intuitivement, que le développement, c'est en fait, c'est réduire la part du hasard à sa portion la plus congrue. C'est ça. Et donc, on se rend compte, on va pas donner de nom, mais on va dire, exemple, il y a des pays où on peut se faire renverser par un bus, on a une chance sur deux, ou sur trois, sur dix. Il y a d'autres pays beaucoup plus avancés où la chance de se faire renverser par un bus est une chance, on va dire, sur mille. Et donc, il semblerait que le développement, c'est ça, c'est-à-dire maîtriser le hasard. Même s'il est, non maîtrisable, puisqu'il y aura toujours une part d'aléatoire pur.
C'est le sujet central de votre livre, est-ce qu'on peut maîtriser le hasard ? Vous êtes scientifique de formation, est-ce qu'il y a une définition scientifique du hasard ?
La définition la plus courante, c'est deux séries indépendantes au départ qui se croisent. C'est-à-dire un homme qui marche et un pot de fleurs qui tombe. C'est deux séries indépendantes qui n'ont rien à voir.
Et pourtant,
si ça lui tombe sur la tête, là on rentre dans le hasard, c'est-à-dire le type n'a pas de chance. Enfin, il a de la chance, il survit à la chute du pot de fleurs. Et il n'a pas de chance si il meurt sur place ou il a un traumatisme crânien. Dans tous les cas, c'est du hasard. C'est deux séries qui ne devaient pas se rencontrer.
Si on n'avait pas inventé l'heure, quelle heure serait-il aujourd'hui et maintenant, là ? C'est partie des questions que vous avez 4 heures. Tout à l'heure, vous aviez 3 heures.
Non, ce n'est pas juste, parce que c'est moi qui l'ai écrite. Alors. Et je n'ai pas la réponse, en fait.
Non, mais vous n'avez pas la réponse. Mais il y a beaucoup de questions que vous posez dans votre livre pour lesquelles vous n'avez pas la réponse.
Bien sûr, mais ce n'est pas une thèse, comme j'ai dit, sur le hasard. L'auteur n'est pas là pour apporter des réponses. Il est là pour interroger, divertir, faire réfléchir et sourire, si possible. Et rêver, etc. C'est de la littérature.
Ouais. À quel genre votre livre appartient-il ? C'est un roman ? C'est un polar ? Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un polar scientifique ?
Je sais pas. Bon, déjà, c'est un roman, on est sûr de ça. C'est un roman écrit avec des mots sur du papier. Après, les catégories, franchement... D'ailleurs, dans l'édition où je suis, ils l'ont pas catégorisé. Ça veut dire qu'il est ni dans une collection polar, ni scientifique, ni métaphysique, ni... C'est un roman, et effectivement, il faut peut-être dire aux auditeurs que c'est la suite du roman qui est sorti il y a 2 ans. C'est-à-dire Lannemore, qui s'intéressait à la gravité... Celui-là s'intéresse au hasard et le prochain s'intéresse
C'est une trilogie, faut expliquer.
C'est une pentalogie, monsieur.
Non, c'est pas
c'est
vrai.
C'est 5, bien sûr.
Vous êtes ambitieux, hein ?
Non, je me suis dit, au lieu de vendre un livre, au mieux en vendre 5 par pack, hein. Ça va être plus simple. Non, je plaisante. Mais l'idée, c'est de choisir, évidemment, de manière subjective, 5 sujets, 5 concepts, 7 thèmes qui font l'univers, c'est-à-dire la gravité, le... Le hasard dans ce cas-là, dans le cas de ce livre, et le prochain sera sur l'énergie et la matière, ensuite l'inconscient et la mort. Donc, ça fait 5. Ça fait beaucoup, mais je suis à la moitié du chemin. Voilà ce que je voulais dire, j'ai oublié. En fait, Balak, il y a 3 niveaux de lecture. Donc, il y a le niveau de lecture purement physique et mathématique sur le hasard, il y a un niveau métaphysique, et il y a un niveau très romancé. C'est une histoire, on va dire, entre guillemets, un peu légère. Et donc, on n'est pas obligé de lire les 3 niveaux. Je rassure tout le monde, c'est pas une thèse absconse sur le hasard.
Non.
Ou sur la mécanique quantique.
Non, c'est drôle.
Il y a de la drôlerie dans le premier niveau.
Vous m'expliquez pourquoi vous pensez que l'Algérie est un pays quantique ?
Alors, j'ai relu ça ce matin, je sais pas où je l'ai dit. Où c'est écrit dedans.
Je peux vous assurer.
C'est écrit. Okay. Je disais, c'est parti de l'idée que le hasard en mécanique quantique, c'est-à-dire à l'échelle des particules élémentaires, il n'est pas défini comme une part sombre d'aléatoire, où genre il y a un dieu qui jette les dés comme ça et qui décide que ça va aller là, ça va aller là. En fait, fondamentalement dans la mécanique quantique, on définit la présence d'une particule élémentaire, que ce soit un électron, un neutron, un proton, un boson, comme une probabilité de présence. C'est-à-dire qu'il est partout, c'est une espèce d'onde de particules qui est partout et nulle part en même temps. C'est-à-dire qu'il faut la mesurer pour qu'il délivre un peu comme, il y avait un bon exemple, une brume qui se condense en une goutte d'eau. La brume est partout, et la goutte d'eau, c'est la brume, mais elle se condense. Et donc, ça veut dire que les particules élémentaires ont une probabilité de présence. Elles sont partout et nulle part. Et là, Géry, j'en ai parlé, puisque on n'est ni super développé, ni moins avancé. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on n'est pas démocratique, on n'est pas vraiment autocratique, on est tout en même temps. Donc, quelque part, on est
quantique.
On est quantique.
Je vais vous poser une question et on y répondra. Après une page de publicité, à la latitude d'une ville comme Alger, à quelle vitesse la Terre tourne-t-elle?
Nous, on est à...
Après la pub.
Non, parce que là, j'ai même pas besoin de réfléchir, parce que je le savais.
Ça, vous le saviez?
Oui, je le savais. Je l'ai calculé.
Oui.
Bien sûr.
Bon, on donnera la réponse tout à l'heure. C'est le Book Club de Chaouki Amari qui est avec nous ce matin jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le Book Club en direct, il est midi 20 avec Chaouki Amari qui est notre invité, qui publie Balak en France, hein, puisque votre livre est déjà sorti en Algérie, aux éditions de l'Observatoire. On posait une question tout à l'heure, donc à la latitude d'Alger, quelle est la vitesse de rotation de la Terre?
Alors, heureusement que j'ai révisé cette question. À Alger, on tourne à 1000 km à l'heure à peu près. À Marseille, on est autour de 900 et à Paris, je crois qu'on est à 850. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais pendant qu'on parle de mon fabuleux roman, on est en train de tourner sur nous-mêmes à la vitesse de 1000 km à l'heure. Mmh. C'est extraordinaire.
Alors, Alger, c'est précisément 1200 km.
1200, j'ai dit, c'est ça?
Ouais, 1200. Ouais.
Et à l'équateur, c'est 1400. Mmh. Mais en fait, pendant qu'on parle, on tourne à 1000 km dans un mouvement circulaire, mais la Terre tourne autour du Soleil à la vitesse de 10 000 km à l'heure. On tourne aussi, on avance à 10 000 km à l'heure. Le système solaire tournant autour de la Voie lactée, du centre de la Voie lactée, à 100 000 km à l'heure. C'est énorme. Là, on est en train de faire des courses folles. Mmh. Et pourquoi on n'a pas le vertige?
Pourquoi?
Ben, c'est la prochaine question, après la pub.
D'accord. Bon, alors la prochaine pub, elle, c'est pas encore là. Vous vous promenez dans Alger, dans votre roman. Quel est le Alger que vous voulez montrer et comment est-ce que vous avez choisi les endroits dans lesquels vous vous promenez?
La question est difficile. En fait, j'ai pas vraiment choisi. Hein. Bon, je me suis dit, pour la clandestinité, il vaut mieux utiliser la Casbah, puisque, bon, c'est des petites ruelles, sont souvent avec des impasses, des escaliers. C'est vraiment un truc pour connaisseurs. C'est un espèce de labyrinthe urbain.
Mais qui vit dans la Casbah aujourd'hui, ben, d'ailleurs?
Si, il y a plein de gens. En fait, c'est pas des vieux habitants. Contrairement à ce qu'on pense, la Casbah, c'est pas des gens qui sont là-bas depuis 2000 ans. Comme c'est des anciennes maisons, c'est des loyers les moins chers d'Alger. En fait, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui habitent 2-3 mois, le temps de trouver quelque chose, et puis il y a un turnover très rapide. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, des gens qui sont là depuis le
oui, depuis toujours, romaine. Voilà, ouais.
C'est ça, ça brasse beaucoup.
C'est le Airbnb d'Alger.
C'est Airbnb, bon, c'est pas le super luxe, mais c'est les moins chers d'Alger. C'est cher, Alger, hein, au niveau foncier. Mais la Casbah, ça reste moins cher.
Vous posez une question dans votre livre, c'est à quoi servent les révolutions? Quelle est l'utilité des révolutions? Vous vous dites que c'est absurde, finalement.
Pas vraiment, mais une révolution, comme son nom l'indique, c'est un tour, hein. Une révolution, c'est-à-dire que c'est un tour autour de soi-même. Donc on fait un tour et on recommence. Évidemment, on recommence avec des acquis, des avancées, etc. Mais en fait, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on se bat contre l'injustice, la pauvreté, la censure, tout ça. Et après, bon, on a des acquis, mais en fait, on ne fait que tourner. C'est-à-dire que la première révolution de l'invention du feu, par exemple, il y a 50 000 ans. Mmh. Aujourd'hui, on a le même problème. L'énergie. 50 000 ans plus tard, il faut une nouvelle révolution énergétique, d'autant qu'il y a des problèmes, enfin pour vous, je m'excuse, mais avec le gaz russe, etc. Nous, heureusement, on a encore du gaz, on peut vous en vendre un peu si vous êtes gentil. Mais je veux dire...
À qui profite
le crime?
À qui profite le crime?
Non, mais en fait, c'est pas vrai, parce que les gens croient qu'on a des milliards de gaz dans la poche, c'est pas vrai. On a un très léger excédent qu'on va revendre probablement à l'Italie, je pense, c'est eux qui sont les mieux placés.
Voilà. Alors je sais pas ce que c'est, ça, c'est la technologie ou quelqu'un qui est en train
c'est
de...
C'est pas mon téléphone, ça, non?
Si. Peut-être qu'il faut débrancher votre téléphone.
Moi, je l'ai mis en mode avion.
Vous avez écrit votre livre avant le Irak ou après? Ou pendant?
C'était juste avant. C'était juste avant. Et ça finit justement... Enfin, je vais pas raconter la fin, non, ça se dit pas.
Non.
Mais c'était juste avant.
C'est que la fin de votre livre, alors la dernière phrase, m'a scotché.
Ouais, mais on peut pas en parler.
Non.
Et donc, de quoi on parle?
On parle de l'utilité des révolutions. Et selon
ouais,
vous...
Je ne dis pas que c'est inutile, hein, mais je dis qu'en fait, on repose le même problème avec des variables, une équation différente. Mais c'est le même. Je parlais du problème énergétique, ben, c'est comme le problème du feu il y a 50 000 ans.
Si on prend la question du Irak, en quoi, selon vous, le Irak a-t-il modifié le système? En quoi ça l'a fait changer?
Ben, comme toute révolution, ça fait... ça fait reculer un peu le système, et donc il est obligé de lâcher un peu de lest. Même si aujourd'hui, on le voit avec le recul qu'il a réussi à se recomposer. Mais bon, maintenant, c'est lui qui est sous pression, puisqu'il sait très bien que 20 millions de personnes dans la rue, s'ils sont sortis, peuvent ressortir à n'importe quel moment. Donc, même si de loin, on a l'impression qu'il y a une espèce de répression, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de détenus d'opinion en prison, qu'on relâche un peu comme ça, forme de générosité, de mansuétude ridicule d'ailleurs, qu'ils n'ont rien à faire en prison. Mais le fait que les gens soient sortis aussi nombreux dans toutes les villes du pays, dans tous les villages, en même temps, de manière pacifique, il y a de quoi effrayer n'importe quel gouvernement. Et donc, il est obligé de composer, de faire attention. Donc, c'est ça, il y a déjà qui gagne. Même si, comme je disais, le système s'est recomposé.
En quoi il s'est recomposé?
Ben, c'est les mêmes hommes, hein, en gros. Le président était ministre de Boutefleira. Ça, c'est la chose la plus évidente. Maintenant, après, dans le Sérail, le personnel politique ne s'est pas renouvelé. Les seuls qui ont été renouvelés, c'est des gens, on va dire, il y a quelques ministres, d'ailleurs, qui font du très mauvais travail. On ne va pas donner de nom. Alors si vous insistez, ouais.
Écoutez, si la question c'est est-ce qu'on doit parler des élections en France ou donner le nom des ministres qui ne font pas leur travail en Algérie, je prends le choix numéro 2.
Ok, d'accord. C'est obligé.
Non.
Okay, on va parler du ministre du Commerce, par exemple. C'est un incompétent notoire qui a fait flamber tous les prix. Effectivement, même ici, j'ai vu à Paris qu'il y avait un problème d'huile.
Je veux pas dire
en Algérie, il y a un problème d'huile avant la guerre en Ukraine. Hein.
Oui. Ouais.
Il y a un problème d'huile qui est lié à la guerre en Ukraine, bien sûr. Ici, j'ai vu, dans les rayons, il n'y a pas d'huile.
Au bout d'un mois.
Ce qui est
un peu
dramatique pour une société de consommation comme la France.
Au bout d'un mois,
on a des sociétés de privation. Chaque mois, on a une pénurie quelque part. Donc, on a l'habitude. Cela dit, il y a une forme d'incompétence au-delà du fait que les sources d'approvisionnement posent problème, comme dans le cas du tournesol, du professeur Tournesol d'Ukraine. Parce que l'Ukraine est productrice de tournesol. J'ai bien expliqué.
Pas mal. Mais alors donc, on a le ministre du Commerce. Bon, lui, il est habillé pour l'été.
Ouais, bon, il est allé trop loin en plus. Hein. C'est-à-dire, au début, il a accusé les spéculateurs de spéculer sur les produits alimentaires de base. Il a même fait passer une loi qui punit de 30 ans de prison tout spéculateur. Ensuite, il s'est aperçu que ça n'avait pas réglé le problème. Et là, dernièrement, il a accusé les consommateurs de stocker. Donc là, on attend la nouvelle loi qui va nous punir de 30 ans de prison si on mange trop de pommes de terre. Ça va être un.
Avec le mois de Ramadan, ça n'a pas arrangé les choses.
Oui, justement, là, il faut voir les prix qui ont flambé. Bon, c'est triste. Hein.
Mais ça, c'est traditionnel en Algérie. Pendant le mois du Ramadan, les prix...
Un peu. Mais déjà, en fait, ils ne flambent pas pendant la nuit. Mais là, ça flambe pendant la nuit. Pendant le Ramadan, c'est encore pire. Donc, les ménages ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Mais ils ne vont pas sortir dans la rue pour autant. Hein. Je veux dire que les Algériens ont quand même une espèce de dignité à respecter, puisque... Ils ne sont jamais sortis pour du pain ou du gaz. Ils sortent pour des raisons politiques. Comme ce qui s'est passé dans le Hirak. Comme ce qui s'est passé en octobre 88. Toutes les grosses manifestations du rue, c'est éminemment politique. Jamais pour l'eau, le gaz, le pain, l'huile, la bière ou le whisky. Jamais.
Là, je laisse un blanc.
Voyez. Un blanc.
Oui, je laisse un blanc.
Fill in the gaps.
Voilà, exactement. On appelle ça un grand moment de solitude radiophonique. Comment va la presse? Vous avez longtemps travaillé pour la presse en Algérie. Comment elle se porte aujourd'hui, la presse algérienne?
Je travaille toujours d'ailleurs pour la presse. Hein. La presse a été plus ou moins, entre guillemets, normalisée. Il y a une partie qui est partie habiter sur Internet, et une partie qui est restée sur le papier, avec tous les problèmes de papier qui se posent. À l'échelle mondiale, je rappelle que le papier a connu une hausse de 50% à peu près, d'ailleurs... Même les éditeurs de livres ont ce problème. Les journaux, ça devient cher. Bon, en Algérie, c'est le même problème, avec en plus un accès inégal à la publicité, puisque je rappelle que la publicité est encore un marché contrôlé par l'État, ce qui n'est pas normal, enfin, sauf peut-être en Corée du Nord. Et donc, ils utilisent cette arme pour faire pression sur les journaux qui sont, on va dire, dans l'opposition. Donc là... Peut-être que les gens ont suivi Liberté qui va fermer, je crois, dans
quelques
jours.
Non, mais c'est pour ça, moi je voulais vous parler justement le journal Liberté, qui est une institution.
Mais sauf que ce n'est pas le même problème, parce que Liberté, c'est la propriété d'un homme d'affaires.
Oui, qui s'appelle
Comment il s'appelle? Je sais, je vais prendre. C'était pour ménager le suspense.
Non, qu'on a.
Al-Balab, bien sûr, Issa Al-Balab, qui était un industriel. Donc, c'est la journée qui appartient à un homme d'affaires. Donc, déjà, ça posait un problème. Moi, ça, c'est mon avis. Je pense que les journaux doivent appartenir à des journalistes. Donc, lui a décidé, c'est même pas pour des raisons financières, puisque, bon, Liberté gagnait pas des milliards, mais on va dire que ça s'équilibrait. Donc, c'est pas une grosse fortune, mais il perdait pas l'argent. Mais il a décidé de fermer, selon la rumeur, suite à un arrangement avec le régime pour le laisser justement prendre un peu plus d'ampleur, parce qu'il a encore des projets bloqués. Ça, c'est la rumeur. On le dit, mais bon, ça sortira pas d'Afrique. On est d'accord. Hein? C'est juste une rumeur pour l'instant. Mais le fait est que c'est lui qui a fermé sur décision unilatérale. Il aurait pu au moins proposer un rachat d'actions par les journalistes. Je sais pas, il y avait des méthodes. Donc, c'est quand même assez bizarre. Hein? Moi, évidemment, je le répète, je suis contre... par exemple, le modèle français où tous les journaux maintenant ont été rachetés par des milliardaires, ça, des hommes d'affaires, ça change un peu
les oligarques, comme on les appelle.
Et Beurre FM, à qui appartient Beurre FM?
Ah non, nous, on n'appartient pas à des milliardaires.
À qui? À des pauvres?
Non, faux. Toutes les rumeurs qui circulent sont fausses.
On serait tellement
plus riche et mieux payé.
Enfin, j'ai vu le nombre de pubs qui sont passées, c'est de l'argent quand même. On avait quoi, une quinzaine de pubs?
Vous voulez qu'on en parle?
J'ai envie d'avoir un petit chèque avant de partir.
C'est vrai?
Ouais. Parce que là, je dépense de l'énergie. Hein. À qui appartient Beurre FM, sérieusement?
Encore au même groupe.
Anasser
Kétan et à sa sœur Jima Kétan. Enfin, qui sont, en tout cas, c'est la famille. Voilà.
Okay. C'est pas des hommes d'affaires.
Enfin, s'ils nous écoutent, non.
S'ils nous écoutent pas, oui.
Non. 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 Mais on est presque des ovnis aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. Mmh. On est des ovnis.
Dans quel sens?
Dans ce sens où on est peut-être une des dernières radios indépendantes de France. Mmh. Ouais. Et c'est pas simple, hein, au quotidien de vivre quand on est une radio qui n'est pas adossée à un grand groupe ou voilà. Et je peux vous assurer aujourd'hui c'est compliqué.
Bien, j'ai cru lire il y a quelques jours qu'il y avait un rapport du Sénat français sur cette histoire, justement, la concentration de médias entre les mains de groupes,
des groupes d'affaires.
Des groupes d'affaires.
Voilà, les groupes.
Je sais pas le rapport est tombé, j'ai lu ça dans
Pinot, Bolloré, enfin, on peut les citer, Bouygues, tous ces hommes d'affaires. Mais bon, ça pose.
Moi, en tant que journaliste, ça me gêne beaucoup, franchement. Je veux pas que l'information passe dans les mains des. Si c'était juste des hommes d'affaires, mais les hommes d'affaires, par définition, empiètent un peu sur le domaine politique. Donc, après, ça fausse le jeu, c'est évident. Mais donc, pour revenir à Liberté, déjà, dès le départ, il y avait un problème. Après, voilà, on est à la merci d'un homme d'affaires qui, par arrangement ou d'autres raisons, peut-être qu'il a simplement marre de Liberté, peut-être que, je sais pas, il voit plus, donc il n'arrive plus à lire les petits caractères, il a décidé de l'arrêter. Il y avait d'autres solutions.
C'est le hasard.
Il se trouve, bien sûr, comme par hasard, que c'est un journal d'opposition, enfin, opposition de guillemets, c'est pas le... et donc, aujourd'hui, il y a plus de journaux d'opposition. Il y avait le Khabar, qui est quand même un grand journal, qui s'est plus ou moins redressé, dans le sens...
Ou qui a été redressé.
Voilà, dans ce sens. Je veux dire qu'il a été plus ou moins normalisé, donc il est moins opposant, il fait moins de d'enquêtes et d'articles d'édito ou d'analyse sur... la nature infâme du pouvoir.
El-Nahar aussi.
Non, c'est pas vraiment un journal d'opposition. Non. Enfin, non. Au contraire, d'ailleurs.
Ouattane.
Dans les grands. Ouattane, oui, ça reste un journal d'opposition. Et c'est peut-être le prochain sur la liste. Donc je reviendrai la semaine prochaine.
Non. La semaine d'après. Non, il faut alterner.
En plus, on a dit du mal de Nasser Kitten. Non, je pense
que mais on n'a pas dit du mal.
Mais on a quand même dévoilé son sombre secret.
Lequel?
Qui détient Beurre FM.
Non, il le dit pas tout seul.
Pas
tout seul.
Avec sa famille, quoi. C'est une oligarchie familiale. C'est pas mieux, quand même. On n'est plus au 15e siècle, quand même.
Ça va, je plaisante. Non. C'est trop tard, c'est dit.
Je travaille pas ici. Mais
là,
toi.
Moi, je joue ma place,
là. Tu devrais t'inquiéter.
Mais qu'est-ce qui m'a pris d'inviter Marie en direct, un dimanche d'élection? J'avais pas suffisamment de problèmes dans ma vie. Non.
Ouais, on va pas parler de...
Non.
On va pas parler de... Après la pub. Livre, peut-être. Il y a une pub encore. Ouais. Je vais les compter, ça, toi.
Ouais. Vous voyez qu'on parle de Paul Éluard.
Je vais compter les pubs.
Ou on va parler de...
Il y a une coupure pub, c'est vrai.
Ouais, tout à l'heure. On va parler de Al-Mutanabbi, une de vos références.
Ouais. Grand philosophe.
Ça, c'est intéressant.
Grand philosophe.
Quelqu'un qui a influencé Nietzsche, d'ailleurs.
Ouais, Nietzsche le cite, d'ailleurs.
Hein.
Oui. Évidemment.
C'est une de vos références aussi ?
Nietzsche ?
Non. Je ne sais pas.
Hein ?
Oui ?
Oui, si, si. Bon, les philosophes en général, les déconstructeurs, en fait. C'est toujours intéressant.
Al-Mutanabbi, l'homme qui se prétendait prophète, hein, d'ailleurs.
Oui, il l'a dit, mais c'était pas vraiment sérieux. Mais il a réussi, en fait, ce tour de force d'allier la beauté de la langue, c'est-à-dire la poésie pure, avec de la réflexion philosophique sur le sens du monde. C'est assez incroyable. Nietzsche a fait la même chose, mais sans poésie. C'est beaucoup plus ardu. Et souvent plus profond, d'ailleurs. Mais Mutanabbi a lié les deux, quoi. C'était beau et bon, en même temps.
Ouais. Vos livres et vos romans sont truffés de références, hein, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent. Chaouki Amari est notre invité. Peut-être qu'on le retrouvera après.
Peut-être.
Après la pub, si on n'a pas été coupé au montage. J'en suis pas si sûr. En tout cas, vous êtes notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, l'invité du Book Club aujourd'hui, c'est l'écrivain algérien Chaouki Amari qui vient publier en France. Votre livre est sorti en Algérie aux éditions Barzac. Hein. Balak, c'est donc le deuxième tome de votre pentalogie. Vous aimez beaucoup les formes géométriques. Hein.
Absolument pas. Je ne savais même pas que pentalogie, ça existait. C'est mon éditrice à Alger qui m'a dit ça s'appelle une pentalogie.
Vous n'aimez pas les formes géométriques ?
Si, j'adore ça. D'ailleurs, il me semble que j'en parle un peu dans le livre.
Ouais, moi, j'ai appris plein de mots. Hein. Alors, le mot icosaèdre, c'est quoi un icosaèdre ?
Bah, c'est écrit dans le livre, j'ai oublié. Bah, c'est une forme géométrique.
Vous êtes sérieux ?
Oui, bon, ça j'ai piqué sur internet, hein, j'ai pas cassé la tête. Hein.
Oh non. C'est une forme géométrique dans laquelle il y a des poissons, dans votre livre d'ailleurs. Mais c'est torturé comme forme.
C'est torturé en fait, c'est un objet géométrique que possède le directeur des sectes, qui est lui-même un grand torturé. Ceci expliquant cela.
J'aime bien celui-là comme personnage d'ailleurs. Mmh. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre. J'ai pris presque autant de plaisir à lire votre livre que de passer ce moment avec vous d'ailleurs.
De toute façon, vous êtes viré.
Ce moment improbable qui est ma dernière.
Voilà, c'est des directeurs.
Peut-être que je serai là ce soir et après on verra. Je ne sais pas ce que le hasard dira. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, disait Einstein. C'est quoi le contraire de cette phrase ?
Parce que justement, la secte là, que je mets en scène, les Aéron, ils pensent exactement le contraire d'Einstein. Einstein disait Dieu, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Le contraire c'est. Le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Et le contraire du contraire c'est Dieu qui. Dieu c'est le hasard qui se promène incognito. En fait, c'est derrière chez qui est le premier et qui se cache. En fait, Dieu se cache. Donc il est déjà incognito. Personne n'a vu Dieu. À part peut-être quelques initiés, mais... Donc l'idée, c'est que... c'est l'école déterministe contre l'école non déterministe. Einstein, bon, il avait un problème. D'ailleurs, j'en profite dans le livre pour lui donner quelques coups de coude.
Il n'avait pas qu'un problème, Einstein.
Oui, il battait sa femme et tout.
Il s'est beaucoup trompé.
Il s'est trompé, d'ailleurs, notamment sur le déterminisme. C'est-à-dire, pour lui, sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé », il aurait pu écrire Balak à ma place, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais pour lui, ce n'est pas possible que l'univers ne soit pas déterministe et que le principe de causalité soit remis en cause. Il n'arrive pas à comprendre. Et Niels Bohr, il lui a répondu d'ailleurs, il a dit « Qui es-tu, toi, pour dire à quoi doit jouer Dieu, s'il joue au dé ou pas ?» Après, en mécanique quantique, le déterminisme n'est pas respecté, on va dire, de manière absolue. Et pour Einstein, qui est un type assez rationnel, droit... voire un peu psychorigide, ça lui posait un problème. Et donc, il était contre. Je pense qu'il aurait détesté ce livre. Ce qui m'arrange un peu, parce que Einstein, il fait chier un peu quand même. Tout le monde le prend pour un espèce de génie du bon, il a pompé des trucs à droite, à gauche, il faut le dire. D'ailleurs, j'en parle dans le livre d'avant. Oui, et j'ai décidé, dans la pentalogie d'ailleurs,
oui. À chaque fois,
de lui donner un petit coup de coude.
Il y aura toujours quelque chose.
Jusqu'à que ses ayants droit me contactent. Et là, on va négocier.
Dans ce deuxième tome, hein, vous convoquez également Saint Augustin, l'évêque d'Hipporégius. Les nombres sont la pensée de Dieu.
Ouais. Enfin, je suis convaincu surtout parce que le débat un peu dans... On parlait de Lazar tout à l'heure, qui travaille à la direction des sectes, si je me rappelle bien. Il a un problème métaphysique absolu, ce qui l'angoisse terriblement. C'est-à-dire, est-ce que la réalité, c'est... Comme je disais tout à l'heure, on était aux antennes quand je l'ai dit. Je ne sais plus. Quand on j'attendais, il y a 6 faces. Donc on a une chance sur 6. Si le fait de jeter le dé, comme le disent certains cosmologistes, crée à chaque fois un univers, donc en jetant le dé, on crée 6 univers. Et donc les dés tombent dans un univers sur 1, dans un univers sur 2, dans un univers 3, et je ne sais jusqu'au 6. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hasard. Puisqu'on n'a plus une chance sur 6 d'avoir la face qu'on cherche. Les 6 faces sont tombées. Donc le hasard disparaît. Ce qui pose un problème à Lazare, si le hasard disparaît, c'est que le hasard n'existe pas. Donc c'est réglé. La chance n'existe pas. Par contre, si le fait de jeter un dé nous donne une probabilité de 1 sur 6, donc le hasard existe. Et pourquoi ça tombe sur cette face et pas une autre, là ça devient compliqué.
Ça dépend ce qu'il y a sur les faces, de toute façon, en plus.
Ben, il y a des dés où il y a 6 faces les mêmes. Ça, c'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle des dés truqués. Mais on ne peut pas truquer le hasard à grande échelle. C'était quoi la question? C'était Dieu, oui.
Non, c'était Saint-Augustin.
Ah, c'est Saint-Augustin, voilà. Mmh. Enfin, voilà, j'ai parlé aussi de Saint-Augustin parce qu'il a inventé le libre-arbitre. C'est pour ça que j'ai parlé de Zalman. Non, non, c'est cohérent. Dans la religion chrétienne, je rappelle Saint-Augustin, c'est un Algérien de
Hippone.
De Annaba. Ouais.
Hippone, à l'époque.
Aujourd'hui, Annaba.
Oui.
Merde, non.
C'est Nasser Kétan qui vous appelle.
Non, en fait, j'avais débranché le téléphone. Non. Je suis en direct. Attends. J'avais mis mon avion.
C'est vrai, mais c'était un avion à réaction.
C'est un avion à hélice. Désolé pour les auditeurs, c'est une erreur.
Il réagit bien.
C'est le libre arbitre, justement.
Donc, Saint-Augustin...
Il y avait ce problème dans le christianisme. Est-ce que tout est écrit, prédestiné, gravé ou pas? Et donc, il y avait cette question. Et Saint-Augustin arrive en disant, non, le libre arbitre, il invente le libre arbitre dans la religion chrétienne. Après, bon... Dans l'islam, le problème a été réglé aussi, dans toutes les religions. Mais dans le cas de...
C'est ça qu'on peut...
Du christianisme, c'est Saint-Augustin qui a réglé le problème. Qui était un problème fondamental. Est-ce que le libre-arbitre existe? Après, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, ça n'existe pas. Tu crois choisir, mais tu ne l'as pas choisi, puisque tu as été poussé par des forces cosmiques à faire ce choix. Qui était prévu que tu allais faire ce choix. Ce qui pose des problèmes métaphysiques énormes. Pourquoi Dieu ferait-il naître un homme, en sachant, ou une femme, en sachant qu'il va faire des bêtises, il va l'envoyer en enfer. Il y a un problème métaphysique. Est-ce que le libre arbitre existe? Je ne sais pas.
Ces jours de vote en France, vous dites que l'innocence est au régime ce que la culpabilité psychanalytique est à l'électeur.
J'ai dit un truc comme ça.
Ah, vous
c'est
l'avez
écrit.
C'est écrit, c'est dans votre livre.
Ouais. Bon, je n'ai pas relu mon livre. Et à chaque fois,
mais est-ce que vous l'avez écrit? Parce que l'important, ce n'est pas que vous le relisiez. L'important, c'est que vous l'écriviez. Non, c'est vous, parce que...
Comme tout le monde, j'ai quelqu'un qui écrit à ma place, évidemment.
C'est vrai.
Mais l'échec, c'est moi qui dessine.
Il est torturé, le gars qui écrit à votre...
Non, mais effectivement, quelques phrases dont je ne me rappelle pas. C'est quoi la dernière?
L'innocence est au régime ce que la culpabilité psychanalytique est à l'électeur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette culpabilité psychanalytique de l'électeur? Aujourd'hui, d'ailleurs.
Aujourd'hui, oui. C'est quand même de dire. C'est-à-dire si, là... Quelqu'un va voter pour Zemmour ou, je ne sais pas, un candidat, on va dire, du côté obscur de la force. Si il arrive au pouvoir et va commencer à faire n'importe quoi, il va se sentir coupable, bien sûr. Après, la culpabilité est dissoute dans la responsabilité collective, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Et donc, on s'est tous trompés, parce que c'est une tendance de société, c'est une mode, ou je ne sais pas quoi, après, on se sent moins coupable, mais au fond, c'est le même problème, puisque le vote, c'est ça, hein, c'est prendre une énorme responsabilité individuelle.
Individuelle, oui, c'est ça. Ouais.
Et collective, ensuite. Parce que rien n'empêche à quelqu'un d'expliquer à Zemmour qu'il devrait... arrêter la politique et rentrer en Algérie dans une ferme en Kabylie à élever des olives, d'ailleurs. C'est son nom.
Des oliviers. Ouais.
Ouais, Zemmour, c'est le... Zemmour, ça veut dire c'est l'olive.
Vous le connaissez bien, Éric Zemmour?
Je le connais pas du tout, non. Je sais qu'il vient d'une grande famille mafieuse, d'ailleurs. j'ai lu ça.
C'est vrai ou pas ? Alors, il y a. Ouais.
C'est sur Wikipédia.
Oui, mais alors des fois, Wikipédia, bon, faut se méfier. Ouais.
J'ai lu ça.
C'est le même orthographe ?
C'est
la même orthographe.
Moi, c'est ses parents, une grande famille, une mafieuse d'Algérie. Qui ensuite, ils sont partis en France et le petit dernier, voilà, il a fait de la politique.
Qu'est-ce que vos livres ont d'universel ? Ou alors est-ce qu'il faut vraiment être algérien pour lire, comprendre et aimer vos livres ?
Non, je pense pas, franchement. Bon, c'est pas connu, en fait. Hein. Bon, effectivement, il y a quelques expressions, peut-être typiques algéroises.
Mais oui, il y a des expressions typiques algéroises.
Ça reste dans.
Pas forcément traduites, en plus, dans votre livre.
Oui, mais ça reste dans la compréhension en général. Je veux dire, c'est pas compliqué. Pas besoin de connaître l'Algérie pour lire ce livre. Hein. En plus, j'ai décrit des endroits et tout. Bon, je rappelle que je travaille aussi pour l'Office du tourisme algérien. Donc. Je connais un peu d'argent avec ça, en remontant la casse-bas. Enfin,
Non, c'est pour ça que je vous disais que vous avez choisi des lieux. C'est quand même la carte postale, vous voyez.
Oui, c'est vrai. Mais bon, après...
On a Alger vu de haut, Alger vu du bas.
Ouais, comment il faut que je me défende, là. En fait, j'avais déjà posé cette question. Pourquoi j'ai choisi les lieux?
Non.
La casse-bas, c'est pour la clandestinité. Mais alors, après, tout ce qui se passe ailleurs, c'est dans le nouvel Alger. Hein. Les nouveaux quartiers où... Il n'y a pas de ce côté-là pittoresque et exotique. C'est des maisons comme ici, avec le câble, internet, pas de cheminée, mais c'est universel dans ce sens. C'est-à-dire que quelqu'un peut, un Hongrois peut lire ce livre, il ne sera pas en train d'essayer de chercher dans le dictionnaire, mais ce qu'il a voulu dire, et c'est quoi ça. Il est traduisible, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de. Et c'est l'idéal pour un livre. Hein. Qui soit traduit dans n'importe quelle langue.
Ouais. Personne ne vous a dit que votre livre avait une âme algérienne ? Non ?
Comment elle s'appelle ? J'ai oublié son nom. Enfin, une spécialiste d'Algérie. Elle m'a dit, je pense que tu es le plus algérien des écrivains.
Alors, je pense à ça aussi. Je pense ça aussi.
Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que être algérien, c'est...
Mais c'est pas un reproche.
C'est non, pas, non, c'est pas un défaut. C'est ni un compliment, une catégorie, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement. Évidemment, je suis algérien, donc je vais écrire des livres algériens. Je pense que ça va se...
Il y a l'humour, franchement.
Alors, est-ce que c'est de l'humour algérien ou est-ce que c'est de l'humour universel? Ça, je ne sais pas non plus. À force de côtoyer plein de gens, on ne sait pas d'où vient cet humour. On dit, l'humour algérien, l'humour... breton, l'humour juif, l'humour suisse, il est connu pour n'être pas de l'humour, mais est-ce que ça existe vraiment ? Moi, j'ai connu des Suisses qui ont de l'humour, c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai, ils n'ont pas vécu à l'étranger. Ils sont restés au bord de leur lac. Ils ont de l'humour. Donc après, les catégories, je sais pas. L'humour noir, je sais pas.
Non, j'ai pas l'impression d'être...
Être algérien, c'est avoir de l'humour. Je sais pas, moi, je crois que c'est valable déjà pour toute la Méditerranée. Non, ça après, c'est un peu cliché de dire ça, et ça m'étonne de vous, monsieur.
C'est vrai ?
C'est un peu cliché.
Qu'est-ce que je devrais faire ?
Eh ben,
je le dis pas tous les dimanches. Hein.
C'est vrai ?
Ouais.
Bon, j'écoute pas Beurre FM tous les dimanches. Mais en gros, c'est quoi la littérature algérienne ?
Aujourd'hui, c'est une bonne question.
C'est une bonne question. Ben, ouais, je n'ai pas de réponse, en fait. Par exemple, on peut qualifier la... Exemple, un bon exemple, vite.
Kamel Daoud,
on va dire. Non, je parlais en général. On peut qualifier la littérature sud-américaine. Ils sont rentrés dans une école qu'ils ont inventée eux-mêmes, le réalisme le réalisme magique. Bon, on va pas citer tous les auteurs, mais même les auteurs d'aujourd'hui descendent un peu de cette école. Et donc, on reconnaît tout de suite cette... La fantasmagorie, le fiction, mais avec la réalité, le rêve, le fantastique et tout. La littérature anglaise, je ne sais pas ce que c'est. Française, je ne sais pas ce que c'est. Marocaine, algérienne, je ne sais pas. Si on descend un peu plus, on dit la littérature sénégalaise, oui, voit rien. Déjà, on sent un truc qui est plus particulier. Quoi ? On coupe ?
C'est fini ?
C'est fini.
C'est fini pour aujourd'hui, en tout cas. Chaouki Amari était l'invité du Book Club. Non, c'est fini pour aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast et vous verrez la vidéo sur YouTube.